Bonjour et bienvenue. La source qu'on a entre les mains aujourd'hui, c'est une vraie petite pépite.
Ah oui, tout à fait.
C'est le bulletin numéro 82 du Carto Club Aveyronnais. Et avant de commencer, il faut vraiment saluer le travail de Guy Mazars, le rédacteur en chef. C'est lui qui signe la conception, la mise en page.
Un très beau travail, oui.
Et on va se plonger dans un article qui m'a tout de suite interpellé. Il est signé Jean-Claude Vidal-Garic et il s'intitule « La civette à Rodez ».
C'est un titre qui peut paraître très local, presque anecdotique. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de montrer comment, en tirant le fil d'un seul mot, on peut dérouler une histoire absolument mondiale.
C'est ça.
On part d'un mot que tout le monde croit connaître, en France, une civette pour un bureau de tabac, et on va voir qu'il nous emmène dans les forêts d'Asie, dans les labos des plus grands parfumeurs.
Incroyable.
Et pour finir, oui, au cœur d'une saga familiale à Rodez.
C'est exactement ça qui est fascinant. La question de départ, elle est presque naïve. Pourquoi un bureau de tabac, un lieu si quotidien, porte le nom d'un petit mammifère? On croit savoir, mais en fait, pas du tout.
Non.
C'est ce qu'on va décortiquer ensemble.
Allez.
Alors, pour bien comprendre, il faut commencer par le mot lui-même. L'article nous explique qu'avant d'être une boutique, civette a plusieurs sens.
Oui.
Le premier, le plus évident, c'est l'animal.
Oui, et il faut se le représenter. La civette, c'est un petit mammifère carnassier de la famille des vivéridés.
Ça ressemble à quoi concrètement?
Visuellement, imaginez un croisement entre un chat, peut-être, et une mangouste. Un corps allongé, un museau pointu et une très belle fourrure, souvent tachée.
D'accord.
C'est un animal plutôt nocturne, assez discret. On le trouve en Afrique et en Asie. Et cet animal, sans savoir, a joué un rôle majeur dans l'économie du luxe.
Et c'est là que ça devient complètement inattendu. Le premier lien, c'est le café.
Oui.
L'article nous parle d'une espèce particulière, la civette palmiste, ou luwak en Indonésie. C'est elle qui est à l'origine du café le plus cher du monde, le kopi luwak.
Le processus est, disons, unique.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Cette civette, elle adore manger les cerises du caféier, la pulpe sucrée du fruit. Mais son système digestif, lui, il ne peut pas digérer le noyau.
Le grain de café.
Le grain de café, exactement. Du coup, les grains traversent tout son tube digestif et sont récupérés dans ses excréments.
Attendez, il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Ça veut dire que quelqu'un, un jour, a regardé les déjections d'une civette et s'est dit « tiens, ces grains de café ont l'air pas mal. Et si on en faisait une boisson chaude ?»
C'est complètement fou, on est d'accord.
Mais qui a eu cette idée ?
L'histoire ne le dit pas, mais le résultat est là. Et ce n'est pas juste une excentricité. En fait, les sucs gastriques de l'animal, ils attaquent la structure du grain.
Une sorte de fermentation.
Une fermentation interne, voilà. Ça modifie profondément les arômes, ça enlève une grande partie de l'amertume et ça développe des notes très complexes. Chocolat, caramel...
C'est une transformation chimique, en somme.
Tout à fait. L'article mentionne un prix qui peut atteindre 250 € le kilo.
250 €. Je ne regarderai plus jamais mon café de la même manière. Ça, c'est le premier produit de luxe. Mais il y en a un autre, encore plus surprenant.
Oui.
L'article dit que civette, c'est aussi une substance. Une substance odorante.
Très odorante, oui.
C'est une sécrétion produite par les glandes périanales de l'animal.
D'accord.
C'est une sorte de pâte. Avec une odeur extrêmement puissante, la civette, elle, l'utilise pour marquer son territoire. L'article est très clair. À l'état pur, l'odeur est musquée, presque fécale.
On est loin de l'image glamour de la parfumerie de luxe.
Très, très loin.
Et pourtant,
c'est bien là qu'on la retrouve. C'est le paradoxe total. Comment une odeur presque repoussante peut devenir la base d'un parfum qui coûte une fortune?
C'est toute la magie de la parfumerie. Une fois qu'on récolte cette substance et qu'on la dilue, mais alors extrêmement dans de l'alcool, elle se métamorphose.
Elle change.
Complètement. Son caractère animal s'adoucit et elle devient un fixateur d'une efficacité redoutable. Son rôle, ce n'est pas tant de sentir bon par elle-même, mais d'exalter les autres parfums.
De les faire ressortir.
Exactement. Et surtout de les faire durer sur la peau. Ça donne de la profondeur, une longévité incroyable à une composition. C'était un secret des grands parfumeurs pendant des siècles.
C'est fascinant. Mais l'article soulève un point important sur la manière dont on l'obtenait, n'est-ce pas?
Absolument. Et c'est le côté très sombre de cette histoire. Pour obtenir cette sécrétion, les civettes étaient capturées, gardées dans des cages minuscules.
Oh non.
Et l'extraction était un processus extrêmement douloureux pour l'animal. C'est crucial de le préciser. Heureusement, aujourd'hui, cette pratique est interdite. La civette qu'on utilise maintenant est une molécule de synthèse.
Recréée en laboratoire.
Voilà. Elle imite les propriétés de la substance naturelle, mais sans aucune souffrance animale.
C'est une précision essentielle. Et pour finir ce tour d'horizon, l'article mentionne vite fait une troisième définition.
Oui, beaucoup plus terre à terre.
La civette, c'est aussi une plante, une variété de ciboulette.
Un petit détail botanique, juste pour montrer l'étendue du mot.
D'accord. Alors, récapitulons. On a un animal, un café, disons particulier, un ingrédient de parfum qui vient de ses glandes. On est clairement dans le monde du luxe, du rare.
Oui.
Comment diable on a fait le lien avec un simple bureau de tabac ?
Le pont, c'est le tabac lui-même, mais pas celui qu'on fume. Il faut retourner au XVIIIe siècle, l'âge d'or du tabac à priser.
Le tabac qu'on sniffait ?
C'est ça. À l'époque, dans l'aristocratie, le chic, c'était de priser une fine poudre de tabac. Les tabatières, c'était de vrais bijoux.
Un marqueur social ?
Totalement. Or, ce tabac à priser, il était souvent préparé avec de la mélasse de tabac. Et ça pouvait avoir une odeur assez âcre, pas très raffinée.
Je vois.
Et c'est là que notre substance de civette fait son grand retour. Pour masquer cette odeur et ajouter une touche de luxe, les fabricants y ajoutaient une toute petite quantité d'essence de civette.
Ah, voilà le lien. On a donc créé un tabac civette, un tabac parfumé.
C'est exactement l'idée, un produit de luxe. Et l'article nous emmène alors à Paris, rue Saint-Honoré. C'est là que se trouve le plus ancien bureau de tabac de France, fondé en 1716.
Et qui s'appelle ?
À la civette, bien sûr. C'était une véritable institution. L'article mentionne même une théorie un peu folle.
Laquelle ?
Selon laquelle, au tout début, ils vendaient le tabac directement dans les poches glandulaires séchées de l'animal.
Non.
On peine à l'imaginer. Cette boutique parisienne a donc eu un succès énorme.
C'est la théorie la plus probable que la source avance, oui.
La renommée de « à la civette » était telle que le nom est devenu synonyme de tabac de qualité.
Et les autres ont copié ?
Bah oui. Des commerçants en province, à Lyon, à Bordeaux, ont tout simplement baptisé leur commerce « la civette » pour profiter de cette image de prestige.
C'est un phénomène classique, en fait. Le nom d'une marque qui devient un nom commun, comme un Frigidaire ou un Kleenex.
C'est ça.
Civette est donc devenu le Kleenex des débits de tabac. C'est incroyable cette cascade. Un animal, un parfum, un tabac à la mode, une boutique parisienne et son nom qui se répand partout en France.
Et c'est cette grande histoire qui nous ramène en Aveyron.
À Rodez, place de la Cité.
Oui, l'article atterrit. Après ce grand voyage, on se concentre sur une histoire humaine, celle de la civette de Rodez. Et c'est une vraie saga familiale.
Ça commence quand ?
En 1953. Un couple, les Petits, quitte la région parisienne. Madame Petit est en partie originaire de l'Aveyron et il rachète ce bureau de tabac qui portait déjà ce nom.
L'article les décrit comme des commerçants très respectés, c'est ça ?
Oui, connus pour leur sens du commerce, mais aussi pour leur grande discrétion. Et une petite note importante pour notre source, ils ont aussi été éditeurs de cartes postales. D'où l'intérêt du Cartoclub pour leur histoire.
C'est une histoire de transmission.
Exactement. En 1968, c'est leur fille Geneviève Petit, épouse Ferral, qui prend la relève. Elle continue sur la lancée de ses parents avec, nous dit l'article, un grand dévouement.
La deuxième génération.
Voilà, et la saga continue. On arrive en 1996 et c'est Catherine Ferral, la petite fille des fondateurs, qui reprend le flambeau, la troisième génération.
Plus de 65 ans derrière le même comptoir. Trois générations. C'est rare aujourd'hui.
C'est ce qui rend la fin de l'article si touchante. On apprend que Catherine a récemment vendu l'affaire pour prendre une retraite bien méritée.
Et l'auteur, Jean-Claude Vidal-Garic, écrit que cette nouvelle a été accueillie avec un pincement au cœur par les habitués.
Oui, on sent l'émotion. C'est vraiment la fin d'une ère pour ce lieu, ce visage familier sur la place de la Cité.
On sent un vrai respect dans ces mots. Il souhaite une bonne retraite à Catherine, mais il y a aussi une note d'optimisme, non ?
Oui, tout à fait. Il se réjouit que l'affaire ait été reprise par un jeune couple aimable et commerçant. Et il conclut avec cette phrase qui dit tout. La maison est entre de bonnes mains.
C'est une belle passation.
Très belle. Et pour que la boucle soit bouclée, l'article nous révèle le lien intime entre cette famille et la publication.
Ah oui.
Le mari de Geneviève, puis Catherine Ferral elle-même, ont été membres du Cartoclub. Donc, ce n'est pas juste un article sur un commerce. C'est un hommage à des membres de leur communauté.
C'est une magnifique illustration. On est parti d'un simple mot, civette. On a voyagé en Indonésie, dans les ateliers des grands parfumeurs. On a traversé le XVIIIe siècle pour atterrir place de la Cité à Rodez et suivre le destin d'une famille.
Exactement. Cette exploration, elle nous montre que les mots les plus banals de notre quotidien, ce sont souvent des capsules temporelles.
Chargées d'histoire.
d'histoire, de géographie, de biologie. On croit utiliser un mot simple et en fait, on utilise un résumé de plusieurs siècles d'échanges.
Après ça, c'est certain, on ne passera plus jamais devant une enseigne la civette de la même façon.
Non, on pensera à ce petit mammifère, à ce parfum et peut-être à la famille Petit Féral de Rodez.
Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite.
Oui, combien d'autres noms qui nous semblent évidents cachent des histoires aussi riches? Le secret le plus intime d'un petit mammifère asiatique, transformé en luxe par l'ingéniosité humaine, se retrouve sur la façade la plus familière de nos villes.
C'est une belle conclusion.
La prochaine fois qu'on achètera son journal, il faudra peut-être juste lever les yeux vers l'enseigne. On pourrait se trouver à la porte d'une histoire qui a traversé les siècles et les continents. Une histoire qui lit, de manière invisible, le plus lointain au plus proche.